On va reprendre Colossiens chapitre 2. Hein. On a vu la semaine dernière dans les premiers avertissements de l'apôtre Paul. On était au verset 8 la semaine dernière, on a vu verset 8 à verset 15. Avec cette notion, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie ou par les traditions humaines. Et on va voir ce matin encore d'autres avertissements par rapport que personne ne puisse nous séduire. Nous avons vu la semaine dernière aussi que le verset clé de cette épître et le verset clé de notre vie chrétienne, c'est ce verset 10, que j'insisterai encore peut-être ce matin, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Semaine dernière, au repas fraternel, je parlais avec quelqu'un et il me dit ce verset est tellement simple. Tellement dur à mettre en pratique des fois dans notre vie. Mais il résume tout. Ce verset, vous avez tout pleinement en Christ, résume tout. Et il faut garder bien ça en tête que il n'y a pas de complément à la Bible, il n'y a pas de complément à Jésus-Christ. On a tout en lui. Et ce qui devient dangereux des fois dans notre vie, c'est lorsqu'on dit la Bible, oui, mais. Jésus-Christ, oui, mais. Et souvent à ce moment-là, c'est qu'on commence à douter que nous avons tout en Christ. Et lorsqu'on commence à douter que nous avons tout en Christ, alors nous rentrons souvent dans le processus du péché, malheureusement. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Et si ce n'est pas dans ce processus du péché qu'on rentre, on cherche une béquille humaine. Vous savez, je connais des gens qui aiment la Bible, qui aiment Jésus-Christ, et qui disent toujours « oui, mais la philosophie, c'est quand même important. Oui, mais la psychologie, c'est quand même important. Oui, mais la tradition, c'est aussi important. » Mais toutes ces choses-là n'apporteront jamais rien à notre vie. Jamais rien. Seul Jésus-Christ doit avoir la première place et la priorité dans ma vie. Si c'est autre chose, ça risque d'être dangereux. Ça risque d'être dangereux. Et ce matin, dans la parole de Dieu, on va voir trois autres dangers qui peuvent détourner notre foi. Donc la semaine dernière, on avait vu que c'était, il y avait la philosophie, les traditions humaines et les principes élémentaires de ce monde. Et là, on va voir trois autres avertissements. Et ces avertissements, je les compare un peu à, vous savez, lorsqu'on doit passer devant les barrières de sécurité là. Passage à niveau, voilà, cherchez le mot. Merci Jacques. Passage à niveau. Quand on arrive au passage à niveau, tant que la grosse lumière rouge clignote pas, tout va bien. On passe. Mais quand elle clignote, là mes amis, ça peut être question de vie ou de mort. Si tu t'arrêtes, ça va. Mais si tu essayes de passer, ça peut être mortel. Et là, des fois, la parole de Dieu est comme ça. Des fois, tu lis la parole de Dieu, tout va bien. Et puis, d'un seul coup, il y a des gros voyants rouges. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces grands voyants rouges? Et ce matin, j'aimerais vous encourager à prendre garde et faire attention à trois choses qui vont venir influencer notre vie. C'est le légalisme. Donc, des fois, on peut être très légaliste. Donc, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Où on va voir qu'il y a le mysticisme, on est un peu l'inverse, hein. On est un peu toujours à le ressenti, le sentimental. Et puis on va voir qu'il y a l'ascétisme, et ça sera autre chose que je développe aussi dans ce passage. Donc voilà les trois avertissements, ça va être par rapport au légalisme, au mysticisme et à l'ascétisme. Ça paraît des mots un peu barbares, mais on va les expliquer, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Donc on va commencer à partir du verset 16. Pour ces avertissements. Et vous voyez que la notion que personne donc ne vous juge revient déjà au verset 4. Juste avant de continuer, je dis cela afin que personne ne vous trompe, verset 4. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et puis verset 16, encore cette notion dans le même chapitre 2, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et encore ce que personne, verset 18. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Précepte que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Alors verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet de fêtes ou même des sabbats. Il faut savoir que l'influence juive était présente à Colosse. Ces juifs qui vivaient une sorte de légalisme, j'ai noté ça, qui a dit c'est la religion des réalisations humaines. Être légaliste, c'est la religion des réalisations humaines. Ces hommes-là qui étaient à Colosse jugeaient les chrétiens en leur disant « Mais ça ne suffit pas à ta vie spirituelle. Il faut que tu ne manges pas ceci. Il ne faut pas que tu boives cela. Il faut que tu respectes telle fête. Et le sabbat. Attention, les sabbats, tu n'as pas fait les sabbats. Tu n'es pas un homme spirituel. Tu n'es pas un homme droit. Attention. » Et puis il y avait ces hommes-là qui étaient là et qui mettaient la pression sur les chrétiens. Et aujourd'hui, même des fois dans certaines assemblées, on va nous mettre la pression sur certaines choses. Il faut faire attention, hein, sinon ta vie spirituelle, elle vaut rien. Et on va voir que l'apôtre Paul combattait cela. Dans la notion que personne donc ne vous juge, c'est dans ce contexte-là que ce sont des non-chrétiens qui viennent en essayant de juger des chrétiens. Un chrétien peut juger un autre chrétien. Regardez avec moi. Parce qu'il y a certains chrétiens qui utilisent ce verset en disant « T'as pas de regard sur ma vie. » Qui vont voir les pasteurs ou les anciens quand ils viennent, ils disent « Frère ou sœur, là ça va pas trop. Là il faut que ça change, là mon ami. Parce que là ta vie elle est pas trop en règle. Non, t'as pas le droit de me juger. On ne juge pas. » Mais ça c'est manquer de connaissance de la parole de Dieu de réagir comme cela. Regarde avec moi un Corinthien. Le contexte ici de ne pas juger, c'est un non-chrétien par rapport à un chrétien. Mais un chrétien vis-à-vis d'un chrétien qui ne vit pas en règle avec le Seigneur, c'est possible. Donc c'est juste une parenthèse, mais je veux quand même la préciser. Et bien sûr, ce jugement n'est pas un jugement pour mettre la personne au plus bas, mais au contraire, c'est pour la redresser dans l'amour, pour qu'elle puisse sortir de sa situation. Donc, on va prendre, j'avais noté, c'était 1 Corinthiens 5, je pense. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 5, ce passage, ça doit être verset 9. Hein. Donc voilà. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il faudrait sortir du monde. Donc, avec les gens de... On vit avec des gens comme ça autour de nous. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère et débauché, ou cupide et idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, donc les non-chrétiens? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc voilà, là il écrit à des responsables d'église qui disent c'est à ceux de l'intérieur qu'il faut s'occuper, qu'il faut juger quand ça ne va pas. Mais bien sûr, quand je parle de ce jugement, c'est avec amour, douceur, dans le but de redresser la personne et qu'elle vive pour le Seigneur de façon merveilleuse. Voilà, on revient à notre texte, c'était juste la parenthèse pour cette notion de juger des fois qui est mal comprise. Voilà, il faut les prendre dans ce mot-là, dans le contexte à chaque fois. Ces hommes religieux prennent plaisir à obéir à des rituels et ces rituels renforcent leur orgueil. Ces juifs qui sont à Colosse et qui poussent ces gens à ne pas faire ci, à ne pas faire cela, ça les renforce dans leur orgueil. Parce que voilà, ils sont quelqu'un. Ils donnent des ordres aux gens qui les entourent. Et puis en même temps, vous savez, lorsque on dit je m'abstiens de telle nourriture, moi je ne bois pas de telle boisson, ou moi je fête toutes les fêtes du calendrier juif. Ça apaise notre conscience. Le rituel, des fois, apaise bien sûr la conscience de l'être humain. Et dans l'Ancien Testament, certains aliments étaient considérés comme purs et impurs. Je ne vais pas revenir dans Lévitique pour cela, mais c'était surtout, je pense, moi, soit pour des questions hygiéniques à des moments donnés, soit pour vraiment se différencier des autres peuples. Les autres peuples avaient des pratiques de l'idolâtrie avec certains animaux, et je pense que Dieu a voulu dire « Hop, 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 on ne fait pas comme eux, vous êtes mon peuple, on est différent ». Donc c'était surtout pour ça, et c'est clair hein, dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné qu'il y avait des animaux purs et impurs. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus montre clairement que la nourriture est neutre. Prenez avec moi, on reprend Marc, on l'a vu la semaine dernière, mais reprenez avec moi, on voit que la nourriture ne souille pas en elle-même. Ah, sauf si elle est périmée. Donc là, oui, tu risques un risque de souillite encore. Mais Marc 7, on l'a vu la semaine dernière, mais je veux qu'on revoie ce passage. Justement par rapport à ces pharisiens légalistes qui étaient là et qui mettaient une pression sur les apôtres et sur les gens qui les entouraient. Marc 7. Et je lirai juste versets 14 et 19 aujourd'hui. Allez, on y va. Ensuite, donc il a fait toute... Il a contré toute l'hypocrisie des pharisiens et leur tradition du verset 1 à 13. On a lu ça la semaine dernière. Et là, maintenant, il attaque par rapport au... Il va voir par rapport à l'alimentation. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Je continue verset 21 pour comprendre ceci. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est pas de manger du porc, c'est pas de manger quel que soit comme aliment qui va te souiller. C'est pas ça qui souille. 1 Corinthiens 8:8 nous le dit aussi. Puis rappelez-vous dans Actes 10, Pierre. C'est ça, ça a dû être dur, je ne suis pas juif, donc je ne connais pas du tout cette culture-là et cette tradition-là, même si j'aime le côté Israël, hein, mais cette culture-là, je ne la connais pas. Mais Pierre, pendant toute sa vie, il était interdit de manger certains animaux. Et puis Pierre se convertit à Jésus-Christ, il devient un disciple de Christ. Et d'un seul coup, il peut manger, et même on va le pousser à manger des aliments qu'il n'a jamais pu toucher de toute sa vie. Et Pierre, vous vous souvenez sa réaction en acte 10. Mais non, mais ça va pas. Ou même à la limite, Seigneur, mais tu es fou. Qu'est-ce que je vais toucher cette chose-là? Je vais être impur. Même lui était encore comme ça, dire, est-ce que je vais vraiment... Je vois mal Pierre dire, maintenant on va pouvoir manger du porc, quoi. Ça devait être difficile pour lui. Et lui dit, si, vas-y, c'est fini ça. C'est fini. Donc, ne revenons pas en arrière par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a même des milieux chrétiens qui vivent encore sous l'Ancien Testament en disant, il ne faut pas manger telle chose ou telle chose. Non. On peut. Le seul moment où on ne peut pas manger certaines choses, je pense à comprendre ça dans Corinthiens, c'est pour pas être une occasion de chute pour un frère si lui n'en mange pas. Mais ça, c'est un signe de maturité spirituelle. Et je fais pas ça pour me priver de dire il faudra plus que j'en mange. Mais je n'en mange pas. Ou même par rapport à des non-chrétiens. J'invite des musulmans à la maison et que j'ai un témoignage pour eux, est-ce que je vais leur faire un rôti de porc? Non, mais c'est ça. Il faut réfléchir à ces petits détails-là. C'est un respect aussi. Et voilà, il y a des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que moi, après, je ne priverai pas de cela. Voilà. Autre pression de la part de ces hommes, donc là, il y avait le manger et le boire. L'autre pression, c'était par rapport aux fêtes et aux nouvelles lunes et au sabbat. Tout ça, vous pouvez le voir dans Lévitique 23, hein, si ça vous intéresse de revoir ça. Pas beaucoup, je dirais, mais je rencontre des chrétiens et il y a à peu près 2 mois, 3 mois de ça, j'étais au resto avec un ami chrétien et il m'a fatigué, il m'a vraiment fatigué avec le sabbat. Il partait dans des... Il était à fond dans le sabbat, que le sabbat devait se respecter tel jour, qu'il fallait pas faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et ça m'a embêté ça. J'ai dit, mais pourquoi il est à fond là-dedans? Il était vraiment dans le sabbat de l'ancienne alliance. Et puis ça tombe bien que ce texte-là, j'ai pu l'étudier un peu cette semaine, et on voit que, on va voir, je vais vous montrer plusieurs arguments, que le sabbat n'est plus, on n'est plus sous le sabbat de cette ancienne alliance. Et que le mot sabbat, dans la nouvelle alliance, à partir que Paul écrit aux églises, on le revoit que 2 fois. Il n'y a aucun détail dessus, et les 2 fois où on le voit, c'est ici. Donc que personne... vous soumettre à ça. Et l'autre fois, c'est pour parler du sabbat, mais en parlant du repos éternel dans Hébreu. Sinon, de Romains jusqu'à l'Apocalypse, on le revoit que 2 fois quand il s'adresse aux églises, cette notion de sabbat. et sans explication. Et les fois où on le voit dans les évangiles ou qu'on le voit dans les actes, aucune explication de dire comment il faut le faire, et même, on va voir que peut-être le sabbat du chrétien, ça serait peut-être même, je dirais, ce culte qu'on doit rendre à Dieu tous les jours, quoi, un peu dans cet ordre d'idée-là. Donc on va regarder ça, et puis souvent les gens qui sont à cheval sur le sabbat juif, qu'il faut respecter tel comme ça, comme ça, comme ça, ne sont pas à cheval sur des fêtes qui sont plus importantes que le sabbat dans la culture juive. Le Yom Kippour, par exemple, ou le Pourim avec Esther, c'est des fêtes très très importantes dans la culture juive. Et les gens sont à cheval sur le sabbat, mais pas sur les autres. C'est un peu hypocrite d'être à cheval là-dessus et pas sur les autres. Donc, revenons au mot sabbat. Premièrement, c'était un signe de l'ancienne alliance avec Israël dans un contexte bien particulier. Vous pouvez voir ça dans Exode 31, 16, 17 et dans Ézéchiel 20, 20, 12. C'est vraiment donné à Israël dans un contexte particulier. Dans le Nouveau Testament, il n'est mentionné nulle part d'observer le sabbat dans le sens juif. Acte parle de temps en temps que les chrétiens mettaient à part pour prendre la scène ensemble, on le voit dans Acte 2 et Acte 20. Sinon, ce mot ne revient pas dans la vie des églises, sauf dans les deux passages que je vous ai cités. Troisième argument, le concile de Jérusalem en Acte 15, qui était là pour débattre de ces idées-là, n'en parle pas non plus. N'en parle pas. Alors qu'ils étaient là justement pour confronter ce côté juif et maintenant ces nouvelles pensées chrétiennes, ils ne parlent pas du sabbat. Ils ne reviennent pas là-dessus. Quatrièmement, entre la création et Moïse, la notion de sabbat n'est pas là non plus. Si vous regardez, la notion de sabbat n'est pas là entre la création et Moïse. Le sabbat n'est pas mentionné. Cinquièmement, Dieu n'a jamais imposé le sabbat aux païens qui se tournaient vers lui. Et puis sixièmement, mes amis, Christ œuvre le jour du sabbat. Et ça va choquer les légalistes, justement. Ça va choquer les pharisiens, ces hommes hypocrites. Et les disciples œuvrent aussi. Prenez avec moi Matthieu 12. Ça ne veut pas dire qu'il va œuvrer, que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre un jour à part pour le Seigneur, de repos. C'est pas ce que Jésus veut enseigner à ce moment-là. Et il veut montrer que c'est pas un jour défini où on s'arrête, et que ce sera toujours ce jour-là, et que c'est tout. Regarde avec moi Matthieu 12. Il va reprendre sévèrement ces hypocrites de pharisiens. Hop là, excusez-moi. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim, normalement ils n'avaient pas à faire ça non plus. On ne fait rien normalement le jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Donc, action. Ils font une action. Ils arrachent. Les pharisiens, voyant cela, nos hommes légalistes, lui dirent, « Voici tes disciples, font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Je les vois bondir, avec leurs grandes barbes et leurs gros chapeaux, là. Les pharisiens, voyant cela, donc voilà, ils ne sont pas contents. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Verset 9. « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demanda à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» Donc pour eux, même la guérison, c'était un acte. C'était une action qui ne devait pas se faire. C'est afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez, c'était pernicieux comme question. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat ne la saisira pas pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Cette notion du sabbat ne veut pas dire ne rien faire. Si on peut servir, servons même pendant ce jour du sabbat. C'est ça que Jésus est en train de vouloir nous enseigner là. Et puis ne pas rester dans ce rituel de dire c'est un jour défini, c'est comme ça, c'est le samedi parce que c'est la culture juive et on ne fera toujours que ça le samedi. Donc soyons pas sous cette pression-là. Toutes ces lois alimentaires ou ces fêtes, c'est intéressant, revenons dans Colossiens, sont juste l'ombre des choses à venir. Et vous savez, l'ombre, c'est pas la réalité. L'ombre, ce n'est pas la réalité. La seule réalité, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il est en train de vouloir dire ici, dans ce passage. Toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ne nous préoccupons pas des ombres, mais préoccupe-toi de Christ. Préoccupe-toi de la réalité. Souvent, les gens s'attachent, comme je dis avec Thibault, les pacotilles, à ces choses-là. Mais nous, attachons-nous à Jésus-Christ. Soyons fidèles à Christ. Toutes ces pratiques de régime ou de fête ne changeront jamais ton cœur. Jamais. Seule ta communion quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ peuvent et transformer ta vie. Si Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions. Christ a payé un grand prix à la croix pour toi et moi, pour que tu sois libre. Alors ne reviens pas esclave de ces choses-là. Abandonnons ce légalisme qui vit dans chacun d'entre nous. Et ne crois pas que le légalisme est une mesure pour évaluer ta vie chrétienne. Certaines pensent que faire tous ces principes-là, clac, 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 fait que je suis quelqu'un de plus spirituel. Non. Ne crois pas ça. Ne crois pas ça. Ce n'est pas une évaluation de notre vie spirituelle. On continue notre passage, verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil pour ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu le donne. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le mysticisme. C'est la poursuite d'une expérience religieuse subjective, qui n'est pas fondée sur quelque chose d'objectif, qui n'est pas fondée sur quelque chose de réel, de concret. Vous savez, le mysticisme cherche c'est cette recherche d'une vérité intérieure, en mettant toujours le sentiment et le ressenti en avant. Les hommes maintenant qui voulaient séduire aussi les Colossiens expliquent que pour être dans la vérité, il fallait avoir des visions, il fallait entrer en contact avec les anges, il fallait avoir des révélations spéciales. Et on va voir que ça arrive dans nos milieux évangéliques, ces choses-là. Ça arrive tout doucement. L'être humain, vous savez, on est toujours fasciné par les choses mystiques. Les choses concrètes, réelles, c'est même ça qu'on doute que c'est possible que ce soit vrai. Mais des fois, on va vous sortir quelque chose, mais d'aberrant, et les gens vont foncer et croire à cela. Moi, je ne comprends pas le cerveau humain, il est complexe, hein. Il est complexe ce cerveau. Les choses de la parole de Dieu qui sont claires, on n'a pas envie trop d'y croire, mais à côté, il va y avoir un gars qui va faire un chapiteau avec des visions et des révélations majestueuses, tout le monde va aller au chapiteau. Et Paul dit que les chrétiens qui seront attirés par ces pratiques, regardez, perdront le prix de la course. Vous voyez ça? S'ils nous ravissent à son gré le prix de la course. Les hommes là, si on est séduit par ce mysticisme, par ces choses là, vont nous ravir nos récompenses. Il n'est pas parlé du salut. La récompense n'égale pas au salut. La récompense, c'est ce que Christ donnera aux hommes et aux femmes qui ont été fidèles avec lui dans son royaume quand on le rencontrera. Et ces hommes ou ces chrétiens d'aujourd'hui qui sont attirés par ces choses-là peuvent être de véritables enfants de Dieu, mais perdront ces prix qui leur étaient réservés. Ceux qui enseignent qu'il faut avoir des visions ou des révélations spéciales sont des hommes ou des femmes qui ont perdu de vue la parole de Dieu et surtout Christ. Christ, on revient au verset 10, ne leur suffit pas. Donc, ils cherchent satisfaction dans le mysticisme. Et vous savez, souvent, Satan est derrière tout cela. Vous savez, le diable se cache comme un ange de lumière. Regardez avec moi 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Leur secte, hein, on fait des cultes aux anges où ils attendent des révélations des anges, alors que la Bible interdit bien sûr cela. Mais dans 2 Corinthiens 11, verset 13, hein. Ouais, 13-14, 2 Corinthiens 11, 13-14. Donc ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, des choses mystiques, ça existe. Des choses qui arrivent avec des visions, des révélations, des relations avec les sortes d'anges, c'est possible, mais quelle sorte d'anges? Ça existe, ces choses-là. Mais fait par qui? Pas par Dieu, mes amis. Pas par Dieu, parce que Dieu condamne ces choses-là. Tu adoreras seulement ton Dieu, l'unique. Le seul chemin à la vérité, c'est seulement Jésus-Christ. Il est le seul médiateur. Pas besoin d'ange. Pas besoin d'ange. Mais ce qui m'inquiète, c'est que certains milieux dits évangéliques aujourd'hui sont en train de vouloir séduire les gens par ces choses-là. Par des cultes de révélation, par des cultes de vision. Ils sont plus assidus parce qu'ils voient dans ces milieux-là qu'attirer du monde par la prédication de la parole de Dieu de manière, je dirais, certains diront fatigante. De rester 45 minutes à écouter la parole de Dieu, certains pensent que c'est fatigant. D'avoir une étude biblique le matin et une prédication après, c'est fatigant pour certaines personnes. Donc, c'est ça un culte? Oh là, ça vaut pas le coup. Non, on préfère quelque chose qui est plus spectaculaire, où on entend des choses, waouh, c'est extraordinaire. Et mes amis, lorsque Dieu va venir aller chercher ces gens-là, il va voir ceux qui ont voulu prendre du temps dans la parole de Dieu, dans ce qui a seulement que ça de valeur pour le Seigneur, ce temps qu'on prend avec lui, pour comprendre qui il est, et pas dans ces choses mystiques ou ces choses qui sont du blabla bien souvent. Donc, que notre vie soit centrée sur Christ. Et leurs enseignements sont souvent basés sur les sentiments et plus sur Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu, il n'y a plus rien à lui rajouter. Moi, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a rien à ajouter. Est-ce que tu crois que la Bible est suffisante? Je te pose cette question. Est-ce que tu crois que la Bible est suffisante à ta vie? Ou est-ce que tu as besoin de compléments? Il y a des traitements, des fois, ils ne sont pas suffisants, donc il faut des compléments. Mais est-ce que tu crois que la Bible est un remède suffisant pour toute ta vie? Le vrai chrétien se glorifie en Christ et non sur les anges, les visions ou les révélations aux pensées charnelles. Parce qu'il le dit, hein, ce sont des pensées charnelles, toutes ces choses mystiques, hein, qu'il explique ici. Et puis, ces gens-là font dire à l'Esprit de Dieu ce que l'Esprit de Dieu n'a jamais voulu dire non plus. Parce que souvent, ils utilisent le mot « esprit ». Le Saint-Esprit a dit que. Le Saint-Esprit m'a dit que. Mais non, le Saint-Esprit ne vous a rien dit que. Le Saint-Esprit, il parle à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important de bien connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser séduire par les fausses doctrines. Parce que vous savez, si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, de manière concrète, solide et vraie, tu vas te faire avoir. Tu peux dire, non, moi jamais, Florent. Tu vas te faire avoir, je le sais. Tu vas te faire avoir. Déjà que même quand on est ancré dans la parole de Dieu, des fois quand on est face à certaines doctrines, on est prêt à y rentrer parce qu'on dit, non, c'est pas trop mal. Alors si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu au quotidien, lorsqu'il y a ces hommes ou ces femmes qui vont venir pour te séduire, tu vas les suivre. Aujourd'hui, tu me dis non. Mais si ta vie n'est pas ancrée dans la parole de Dieu, je peux te dire que dans quelques semaines, tu pourras les suivre. Donc, importance d'être dans la vérité, de se concentrer sur ce que la Bible nous dit. Et puis, versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Tout ce qu'on a vu, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Voilà, toutes ces choses qui sont pernicieuses et qui sont fondées sur des doctrines des hommes. L'ascétisme, c'est une personne qui mène une vie de sacrifice corporel pour arriver à une maturité spirituelle. Vous savez, c'est ces gens, à l'époque au Moyen-Âge, et ça existe encore, ou un peu les moines, c'est ceux qui font vœu de pauvreté, qui se mettent à l'écart du monde, qui gardaient le silence durant plusieurs jours, se privaient de nourriture et de sommeil. Il se fouettait aussi pour punir le corps physique. Parce que pour ces hommes, l'esprit était bon en eux, mais le corps était mauvais. Donc il fallait traiter durement le corps pour essayer que l'esprit soit libéré. C'était un peu ça l'idée de l'ascétisme. Et les pratiques de ces hommes disaient qu'il fallait avoir telle chose dans sa vie, ou pas telle chose. Qu'il fallait manger telle chose, ou ne pas manger telle chose. Qu'il fallait toucher telle chose, dans le but d'être libéré. Parce qu'ils pensaient que toutes les pratiques qu'ils faisaient allaient les sanctifier. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu fais et où tu penses, pratiques modernes, hein, et où tu penses que cela sanctifie ton âme? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien, au niveau de la nourriture, au niveau d'avoir... par exemple, je connais des gens qui disent... Moi, j'ai pas de télé, je suis plus spirituel que celui qui a une télé. On peut en arriver à penser ces choses-là. Moi, je bois pas de vin, donc je suis plus spirituel que celui qui boit du vin. On peut en arriver à penser ces choses-là. Je me prive de ça pour me dire être plus spirituel. Et c'est un peu cet ascétisme moderne. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on a certaines choses qu'il ne faut pas toucher. C'est vrai. Qu'il ne faut pas se lancer dedans. Mais ça, vous le savez, l'Esprit de Dieu vous le montre. C'est vrai aussi qu'en tant que chrétien, il faut prendre soin de son corps. La parole de Dieu nous en parle aussi. Vous savez, cet été, j'avais des jeunes avec moi à Parole de Vie qui sont convertis chrétiens. Et il y en a un qui me dit, mais Florent, je peux fumer. C'est pas marqué dans la Bible que je peux pas fumer. C'est un petit marrant, toi, je lui dis. Hein. Si tu veux me piéger, je lui dis. Je dis, ça marche pas. Je n'étais pas tombé sur la bonne personne pour piéger. Je le regarde, je lui dis la première chose, je lui dis, est-ce que la Bible dit que tu es le temple du... Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que la Bible dit ça? Ah, il me regarde, je lui dis, on va regarder ensemble. La Bible dit ça. Tu es le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que la cigarette donne de bon à ton corps? Dis-moi, qu'est-ce que la cigarette donne de bon à ton corps? Je dis rien. Je dis, ben oui, t'es obligé de dire rien. Si je dis la cigarette, c'est comme si t'as... Je dis, même si tu veux payer moins cher, comme on disait, va fumer derrière un pot d'échappement et ce sera la même chose. Sauf que le diable, il a déguisé le pot d'échappement en cigarette pour qu'on consomme et qu'on fume. Mais c'est la même chose, c'est du goudron, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien qui construit, tout détruit. Et ça détruit le corps. Je lui dis, tu vois, c'est juste un respect par rapport à ton créateur. Juste un respect par rapport à ton créateur. Ton créateur te donne un corps à respecter. Qu'est-ce que tu en fais, toi? Qu'est-ce que tu en fais? Donc ça, c'est la première chose que je lui dis. Ensuite, je lui dis, tout l'argent que tu mets dans la cigarette, tu pourrais l'investir pour soutenir ton église. Et puis, je lui dis, enfin, si tu ne peux pas t'arrêter définitivement, c'est que tu en es esclave, donc tu es en train de pécher contre Dieu. Mes amis, nous sommes garants aussi de ce corps, alors c'est sûr qu'il faut l'entretenir, pas pour se dire plus spirituel, mais par respect pour le Seigneur. Et ces hommes-là, nous disent, prennent pas, goûtent pas, ne touchent pas. C'est pas sous une loi qu'on ne veut pas prendre, qu'on ne veut pas toucher, qu'on ne veut pas goûter. Mais c'est par amour pour Dieu. Et c'est ce que j'expliquais à ce jeune par rapport à la cigarette ou par rapport à d'autres choses que nous, on peut renoncer. Si l'ordinateur est un problème pour toi, parce que tu sais que tu as peur de tomber sur des choses qui vont t'influencer dans ta vie, qui vont te détruire, mais par respect pour Dieu, tu dis, bon, je n'irai pas. Mais c'est pas parce que toi, tu n'auras pas que ça peut être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Le renoncement et les disciplines de ces hommes, de ces ascètes, n'accomplissent rien dans l'homme intérieur. Ces règles n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Seule une vie dirigée et soumise à Christ peut transformer l'intérieur. C'est ce qu'il dit dans la suite du verset. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. On va s'arrêter là. En conclusion, j'aimerais juste vous dire le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme qui sont encore d'actualité aujourd'hui sont des fausses doctrines qui peuvent influencer notre vie si Christ n'a pas la priorité. Et je réinsiste sur ce verset 10 et je veux qu'on le relise ensemble. Vraiment, ce verset 10, il faut qu'il soit la clé de notre vie chrétienne. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Garde tes yeux fixés sur ce verset. Et je t'encourage à progresser cette semaine et à venir avec tes progrès la semaine prochaine dans cette assemblée, avec cette notion de dire, cette semaine, je vais vivre chaque jour, chaque heure si je peux, et je vais m'efforcer à vivre tout pleinement pour Christ. J'ai tout pleinement pour Christ. Vivez avec ça cette semaine et viens avec ces progrès la semaine prochaine. Et apporte-nous ces progrès que tu as faits pour que le corps de Christ grandisse encore. Voilà, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Prions. Amen.